7h42 en temps universel, tout de suite les sports. Avec vous, Christophe Diremzian, du cyclisme. Le Tour du Rwanda s'achève aujourd'hui et rien n'est joué.
En témoigne le changement de leader au classement général. Hier, à l'issue de la 6e étape, remportée en solitaire par l'Érythréen Naom Zeraï, le Français Fabien Doubet a repris le maillot jaune qu'il avait déjà enfilé en début de semaine. Mais son premier poursuivant, un autre Érythréen, Enoch Mouloubran, n'est qu'à 6 petites secondes et les 6 coureurs suivants sont à moins d'une minute. Autant dire que les derniers kilomètres de cette édition seront décisifs et d'ailleurs sélectifs. Un parcours calqué en partie sur celui des prochains championnats du monde en septembre. Notre envoyé spécial, Thomas Tsanegi.
Les mondiaux en miniature, c'est la promesse de cette dernière étape du Tour du Rwanda au programme. Les deux circuits de septembre sur 3 boucles seulement, pour un petit total de 74 km, une version courte mais intense. Philippe Colliou, le coordinateur général de la course.
Ce qui attend les coureurs, c'est ce qu'ils vont trouver au mois de septembre. Des alternances de montée-descente, des passages pavés. Une course qui est très dynamique et on va dire sans possibilité réelle de récupération entre chaque difficulté. Donc même sur 74 km, ça devrait faire une étape sélective et décisive pour le classement final du Tour du Rwanda.
Et on garde le meilleur pour la fin. En juge de paix, un enchaînement diabolique. Mont Kigali, mur de Kigali, du pavé, de la pente, du bruit toujours. Le jeune Belge Milan Doni, déjà présent l'an passé.
C'est 2 heures à bloc. La début de course est très explosive et technique, mais je pense que tout va se jouer au boss final.
Milan Doni, toujours dans le match pour la victoire finale. Il est 4e à 12 secondes du maillot jaune Fabien Doubet. Les écarts sont très serrés. Alors, quelle roue suivre? Le jeune Belge a son idée.
Je pense Enoch Mouloubran. Il est un peu, oui, plutôt puncheur. Et c'est vraiment pour les puncheurs.
Enoch Mouloubran qui sait en plus comment gagner sur ce terrain. L'Érythréen avait remporté le Tour du Rwanda lors de sa dernière participation il y a 2 ans. Thomas Saint-Léger, Kigali, RFI.
Du football, encore une belle journée pour les buteurs africains dans les championnats européens.
En Bundesliga notamment, où Serhou Guirassy a ouvert la marque pour le Borussia Dortmund face à São Paulo. Victoire 2-1 pour le BVB et 14e but de la saison en championnat pour le Guinéen, qu'on reverra certainement mardi en 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre Lille, largement battu de son côté sur la pelouse du PSG. 4-1 lors de la 24e journée de Ligue 1. Par ailleurs, le Havre est allé arracher une spectaculaire victoire à Lens, 4-3 grâce à un pénalty de l'Égyptien Ahmed Hassan à la 90e minute. Mais 2 autres buteurs africains du club normand ont contribué à ce succès, le Sénégalais Issa Soumaré et le Ghanéen André Ayou, pour qui le Havre, où il joue depuis maintenant 2023, novembre précisément, est devenu une vraie ville d'adoption.
J'ai une relation spéciale avec le public, j'ai une relation avec la ville à chaque fois que je suis en ville ou que je vais manger avec tout le peuple havré, comment ils m'accueillent, le respect qu'ils me donnent. J'essaie de leur rendre ça sur le terrain tout le temps, essayer de donner le meilleur de moi-même, essayer d'aider tous ces jeunes joueurs à très très fort potentiel. On a montré qu'on peut tenir tête aux très bonnes équipes de ce championnat. On l'a fait à Lille, aujourd'hui à Lens. C'est pas au hasard.
André Ayou sur DAZN, enfin les débuts américains réussis de Wilfried Zaha, l'Ivoirien de 32 ans, parti de Lyon au Mercato pour rejoindre Charlotte en MLS, a inscrit son premier but sous son nouveau maillot lors du match contre Atlanta, comptant pour la 2e journée.
Merci Christophe Diremzian, bon dimanche.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Rohem.
Et à la une, l'accord de cessez-le-feu à Gaza menacé ce matin, alors que la première phase s'est terminée hier et qu'Israël se dit prêt à la prolonger jusqu'à la mi-avril, faute d'un accord sur la 2e proposition américaine rejetée par le Hamas, qui demande le respect du calendrier. Et le gouvernement israélien annonce suspendre les entrées d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Décision qualifiée de crime de guerre par le Hamas. Pas de cessez-le-feu sans libération de nos otages, ajoute l'État hébreu. Contrairement à l'accord qui prévoyait la fin de ses libérations à la fin de la 2e phase, en échange d'un retrait total de son armée, Israël menace également le Hamas d'autres conséquences si les désaccords persistent. On fait le point à Jérusalem avec Michel Paul dans le prochain journal à 8h, temps universel. Les alliés de l'Ukraine resserrent les rangs face aux menaces d'abandon de Donald Trump. Une quinzaine de dirigeants, principalement européens, à Londres, aujourd'hui autour de Volodymyr Zelensky, violemment pris à partie par le président américain et son vice-président vendredi à la Maison-Blanche. Le président ukrainien est arrivé hier dans la capitale britannique, chaleureusement accueilli par le Premier ministre Keir Starmer. Kiev et Londres ont signé un accord de près de 2,8 milliards de dollars qui serviront à la production d'armes par l'Ukraine. À la une également, la tronçonneuse budgétaire durera des années, dira Javier Milei. Le président argentin donnait hier son deuxième discours à la nation depuis son élection en décembre 2023. Il promet donc de continuer ses coupes drastiques dans les dépenses de l'État pendant tout son mandat. Et puis l'étalon d'or, de retour à la maison hier soir, le FESPACO, le festival panafricain de cinéma à Ouagadougou, a décerné sa récompense suprême à un Burkinabé pour la première fois en 28 ans. Le sacre de Dani Kouyaté pour Katanga, la danse des scorpions, dans un palais des sports archi-comble et survolté à Ouaga 2000. Un premier jour d'effort, une première rupture du jeûne à la nuit tombée pour les musulmans du monde entier. C'est parti pour un mois de Ramadan, l'un des cinq piliers de l'islam et le seul mois dont le nom figure dans le Coran. Un mois de charité, de prière, de retrouvailles pour les fidèles avec une règle commune pour tous. S'abstenir de boire et de manger de l'aube au coucher du soleil, mais selon les pays où il est pratiqué, les coutumes peuvent diverger, se mêlant à d'autres traditions locales. C'est notre tour du monde des correspondants qui débute aujourd'hui en Égypte, avec plus de 100 millions de musulmans aujourd'hui. L'Égypte est le berceau des traditions arabes du Ramadan, Alexandre Bouchanti.
Le symbole par excellence du Ramadan est le fanous, la lanterne aux vitres colorées. Elle orne les devantures et les maisons. Dans les quartiers populaires, les enfants munis de fanous quêtent des friandises en chantant « Wahoui ya Wahoui ». Ramadan est en effet le mois de la générosité. Près de la moitié des dons annuels aux organisations caritatives s'en fait durant le Ramadan. Les mosquées, les boutiques et les particuliers organisent aussi les tables du miséricordieux. Des tables dans la rue où quiconque peut profiter d'un iftar gratuit avec viande et poulet. Mais Ramadan est aussi le mois de la surconsommation de nourriture, ce qui provoque automatiquement une hausse des prix et parfois même l'endettement.
Alexandre Bouchanti au Caire, cap à présent sur le Sénégal où le Ramadan commence pour une majorité de pratiquants ce dimanche. Pour une majorité, car c'est la première particularité au pays de la Teranga, tout le monde ne commence pas le Ramadan en même temps, Juliette Dubois.
Comme chaque année, les différentes confréries soufis n'arrivent pas à s'accorder au Sénégal. Deux dates ont donc été retenues pour le début du Ramadan, selon les instructions de deux comités d'observation du croissant lunaire distinct. Une partie des musulmans, la famille omarienne, commence le 1er mars, tandis que la majorité démarre le 2 mars. Pour les soufis, c'est un mois tourné vers la spiritualité et l'ouverture. La minorité chrétienne partage les célébrations, en particulier lorsque le Ramadan coïncide avec le carême. Les voisins et amis chrétiens sont souvent invités à partager le repas du soir, l'iftar, appelé le ndogou en wolof. On mange d'abord du pain, des dattes et une bouillie de mil pour couper le jeûne avant d'attaquer les grands plats à partager comme le tieboudienne. Si la plupart des Sénégalais mangent en famille, les buffets ndogou rivalisent d'opulence dans les restaurants chics de la capitale. Et puis les paniers de Ramadan sont comme dans d'autres pays très répandus et selon la tradition sénégalaise du soukérou-kor, les femmes mariées doivent en offrir à leur belle famille, une charge financière importante, parfois source de stress.
Juliette Dubois à Dakar et puis dernière étape en Inde, pays à majorité hindoue mais qui abrite la troisième population musulmane au monde. Ici aussi donc, le mois prochain sera marqué par le Ramadan comme Bastin.
Oui, dans les grandes villes indiennes, les quartiers musulmans vont être animés tard le soir. Les mosquées organisent des prières et des campagnes de collecte d'argent et de vêtements pour les plus démunis. Après le jeûne qui dure environ 15 heures ici, place à un festival de cuisine musulmane indienne. Les kebabs, brochettes de poulet et de mouton, plus rarement de bœuf ici, les beignets pakora ou samoussa, les ragouts appelés halim et de nombreux desserts où le lait, les dattes, les fruits à coque et les épices indiennes comme la cardamome sont à l'honneur. L'ambiance du Ramadan varie dans un pays grand comme l'Inde. Dans la capitale New Delhi, c'est une frénésie de shopping. Dans le Kerala, où la population musulmane est très importante, la rupture du jeûne se fait par endroits avec les fidèles hindous.
Comme Bastin en Inde pour notre tour du monde des correspondants que vous retrouvez sur RFI.fr et notre application Pure Radio.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'application RFI Pure Radio.
Et dans l'Afrique en marche, ce matin, la robotique en marche à Bamako, au Mali, avec le premier concours de robotique organisé par un jeune ingénieur passionné, Youssouf Sall, a initié en novembre dernier le Mali Bots Challenge, Frédéric Gara.
À Bamako, Youssouf Sall, électronicien et informaticien, est un passionné de robotique. Surtout, ce qui l'enthousiasme, c'est le génie créatif de ses jeunes contemporains. Voilà pourquoi, en novembre dernier, il a décidé sur fonds propres et avec quelques généreux sponsors, d'organiser le premier concours robotique à Bamako, le Malibots Challenge, pour 5 équipes dans 5 catégories différentes. Youssouf Sall.
Malibot Challenge, l'objectif c'était la démocratisation des nouvelles technologies informatiques, électroniques, robotiques et tout ce qui s'en suit. Rendre vraiment les technologies disponibles pour le plus grand nombre de Maliens et sans frais, parce que l'accès à ces technologies-là demande des frais. Donc on s'est dit, la meilleure façon de faire profiter le maximum de jeunes Maliens, c'était de les faire participer à ces compétitions-là, que ça serve de grande science de la fête, de grande fête de la science, au profit des jeunes du Mali. C'est vraiment ça l'idée derrière.
Drones, robots en catégorie universitaire ou lycéenne, développement d'applications, les challenges robotiques de novembre dernier à Bamako ont donné lieu à une formation des concurrents pour l'assemblage et la programmation, suivi du concours lui-même, avec toujours l'objectif d'une application concrète.
C'est ce qu'on a voulu en fait. On a voulu que ça soit axé sur un thème qui puisse servir au Mali. Par exemple, pour le cas du drone, on a voulu que des jeunes Maliens se forment au pilotage des drones pour que si jamais demain ils veulent devenir policiers, agents de force de sécurité, qu'ils aient cette compétence-là pour pouvoir aider le pays. Les deux autres secteurs, nous les avons axés sur l'agriculture. Donc, il y a un tapis qui va simuler un champ et les jeunes avaient pour objectif de concevoir le robot pour qu'il puisse faire des tâches et de façon autonome. À un moment donné, il devait venir déclencher la pompe d'arrosage, arrêter la pompe et tout ça de façon autonome.
Le docteur Bonkana Maïga est enseignant et chercheur à l'université privée Bazo de Bamako. Bazo qui a accueilli le premier concours Malibots.
Il va de soi que ça donne l'occasion aux jeunes de se surpasser, mais aussi de tester éventuellement leur création. Donc, et aussi d'avoir des retours de la part d'experts et ce qui est de nature à les encourager pour la suite. C'est d'encourager les jeunes Maliens à aller vers plus les métiers techniques, parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir industrialiser un peu plus notre pays, mais également encourager tout ce qui est service autorité aussi à encourager en fait ces genres d'initiatives.
Ce qui a le plus séduit l'une des concurrentes, Awa Sissoko, 20 ans, étudiante en gestion, c'est une machine à broderie permettant d'améliorer très nettement la qualité et la quantité d'ouvrages de couture.
Oui, bien sûr que ça nous intéresse, même ici au Mali. À cette formation, lorsque M. Youssouf nous a envoyé de faire la broderie numérique, il y avait nos maîtres et maîtresses aussi qui nous ont expliqué des machines. Bon, au Mali, ici, ce n'est pas facile de trouver ces machines ici. Donc, c'est ça même qui nous fatigue. Sinon, lorsqu'on a trouvé les machines, avec la machine, là, on peut bien faire la broderie, mais ici, ce n'est pas facile de trouver la machine. C'est ça les grands problèmes ici au Mali.
Une machine à broderie automatique, c'est bien, estime Youssouf Sall, mais dans les prochains mois, lors du nouveau challenge Malibots, il s'agira de ne pas s'arrêter en si bon chemin.
Par exemple, cette année, on veut faire un projet de voiture électrique autonome. On veut réunir une équipe d'ingénieurs qui travaillent sur la mécanique, sur l'électronique, sur l'informatique, leur donner comme projet de l'année qui va s'étaler sur 6 mois, de concevoir une voiture électrique autonome. Et le jour de la finale, la voiture devra venir être présentée. Les Maliens verront que voici des universitaires maliens ont travaillé sur une voiture électrique autonome et voici le résultat, ça fonctionne.
Frédéric Gara pour l'Afrique en marche que vous retrouvez en ligne et chaque dimanche bien sûr dans RFI Matin. Bientôt 8h en temps universel sur RFI. On fait le point sur la situation au Proche-Orient dans le prochain journal. C'est dans moins de 5 minutes alors que ce matin, Israël suspend les entrées d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Les tensions autour de la proposition américaine de prolonger la première phase de l'accord de cessez-le-feu et l'appel du Hamas au respect du calendrier. On appellera Michel Paul à Jérusalem dès le début de la prochaine édition. Mais d'abord un peu de musique avant de nous dire au revoir avec le français Thomas Fersen et son titre Blasé, issu de son prochain album.
Ne serait-ce que d'écouter de la zik sur mon plumard, c'est pourtant un plaisir basique, mais j'en ai marre. C'est comme la nuit des morts vivants quand je le revois. Je finis par m'endormir devant, je l'ai vu 10 fois. J'attends d'avoir les poils qui se dressent inutilement. Mes poils, plus rien ne les intéresse actuellement. Je suis blasé, je suis déprimé, je vais me suicider. table, l'ambiance est plombée. Pourquoi tu boudes? Ta tête ne va pas tomber. Enlève tes coudes. Papa voudrait que je me cultive. L'espoir fait vivre. Et tous les ans pour mon anniv, il m'offre un livre. Encore un pavé comme cadeau des mille Zola. Maman a refait son gâteau au chocolat. Et j'ai soufflé sur les bougies sans énergie. J'en ai éteint que 3/16 super balèzes. Je suis blasé, je suis déprimé, je vais me suicider. En ce moment j'aimerais beaucoup avoir un rat. Je le porterai sur mon cou et dans mes bras. Ça me ferait un compagnon quand tout me saoule. Un rat c'est laid, mais c'est mignon. Un rat c'est cool. Avant j'ai eu un poisson rouge, mais il est mort. Au début c'est marrant, ça bouge, je suis d'accord. Il nage et couche sur le flanc, puis à l'envers. Il est passé de rouge à blanc, de blanc à vert. Je suis blasé, je suis déprimé. Je vais me suicider. Je me fais chemire dans les soirées comme un rat mort. Tout le monde a l'air de se marrer, moi je m'endors. Et ça, les filles les plus canons, ça les intrigue. Les mecs ne leur disent jamais non, ça les fatigue. Je ne suis pas collé à elles comme un chien-chien. C'est plutôt inhabituel, ça leur plaît bien. Vu qu'elles font craquer tout le monde, que les fusées, elles en ont marre au bout de 2 secondes, elles sont blasées.
Blasé de Thomas Fersen pour refermer cette édition des RFI Matin. Merci à Christophe Pernet, à la réalisation de ces 3 heures. Une fois n'est pas coutume, je vous dis à demain, dès 5 heures, temps universel. D'ici là, l'info continue. Très bon dimanche à l'écoute des RFI.
On en débat sur l'oreiller à l'occasion. Je suis un peu leur conseiller sur la question.
Le goût du monde, Clémence de Navi.
Des beignets amandes d'Asie, un poulet fumé chikung, sauce graine, un bon riz pondou. La cuisine d'Afrique, celle d'Afrique noire, se crée, s'infuse en Belgique. Elle intrigue et s'affirme aujourd'hui plus seulement dans le secret des cuisines chez soi. Le fil se noue, se tisse, se raconte, de racine en plat, tout à l'heure à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde, Clémence de Navi sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, idée. Pierre-Edouard Deldic.
L'insurrection des particularités, c'est le titre du dernier livre en date de la philosophe Chantal Delsol. Le remplacement de la lutte des classes par le conflit des identités traduit le nombrilisme présent, écrit-elle. Nous en parlons dans une nouvelle conversation.
Pierre-Edouard Deldic avec idée, tous les dimanches à 17h10 TU sur RFI et à tout moment sur RFI.fr ou sur votre application de podcast.